Merci Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. On est heureux ce matin de se réunir. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien. Et on va le faire dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, depuis quelques semaines, pas moi, mais ça va bientôt faire des mois, je ne sais pas, nous partageons quelques réflexions sur les prophètes, les livres prophétiques. Et on a partagé quelques réflexions à partir du livre d'Ésaïe, de Jérémie, la semaine dernière d'Ézéchiel, et là on va dans le livre de Daniel, et Daniel est aussi un prophète du Seigneur, un prophète de Dieu. Il fait partie, comme on le disait un petit peu dimanche dernier, des quatre prophètes majeurs de l'Ancien Testament, de par l'importance de leur message et aussi la quantité de leur message. Daniel chapitre 7, donc nous lisons ceci, quelques versets introductifs. « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, verset 1er, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. » Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la mer, la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Au verset 9, Daniel dit encore, je regardais. Et au verset 11, il dit encore « Je regardais ». Au verset 13, il dit encore « Je regardais pendant mes visions nocturnes ». Amen. Voilà, on va prier, on va demander à Dieu de bénir. On a prié, on a loué, mais on va demander à Dieu de bénir maintenant cette méditation de sa parole. Seigneur mon Dieu, nous sommes là réunis ce matin dans ta présence. Et nous savons, Seigneur, que c'est elle, Seigneur, ta parole, qui est la nourriture de notre âme, qui est la nourriture de notre cœur. Et nous voulons te prier, Seigneur, afin que ce matin, tu puisses encore, eh bien, parler à notre cœur, parler à nos âmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous te prions afin que ce matin tu viennes encore eh bien, nous donner cette manne dont nous avons besoin, cette parole, Seigneur. Elle est esprit et vie. Et Seigneur, qu'elle puisse encore eh bien, nous fortifier et nous permettre de continuer le chemin comme nous devons l'entreprendre avec ta force et avec ta grâce. Amen. Amen. Le livre donc de Daniel est un livre prophétique et Daniel a d'une manière toute particulière entrevu la fin des temps. Le chapitre 7 du livre de Daniel est crucial quand on veut comprendre les principes fondamentaux de la fin des temps. Des temps pas toujours faciles à appréhender. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficile, car les hommes seront, etc. Et Daniel, donc, est aussi un exporté à Babylone, comme Ézéchiel, et l'Écriture dit qu'il sera un homme de foi remarquable, Daniel, comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme Ésaïe, un homme avec une foi véritable, une foi authentique. On a tous entendu parler de Daniel dans la fosse aux lions. Ça vous dit quelque chose ? quand les gens ont voulu trouver quelque chose pour l'accuser, comme des lions, ils ont voulu lui faire du mal, eh bien, la parole de Dieu dit qu'ils ont promulgué une loi qui était contraire à la loi de Dieu, mais malgré tout, il ne fallait pas adorer un autre Dieu que la statue de Nebuchadnezzar, mais malgré tout, eh bien, Daniel, lui, va continuer à prier comme il le devait, il va continuer à se tenir devant son Seigneur régulièrement, et ce faisant, eh bien, il va être surpris, et l'Écriture dit qu'ils vont l'attraper, ils vont le jeter dans une fosse au lion. Mais à cause de sa fidélité, à cause du secours du Seigneur, la parole de Dieu dit que les lions n'auront pas raison de Daniel. Dieu a envoyé son ange là dans cette fosse au lion pour fermer la gueule des lions, et par sa grâce, eh bien, Daniel a pu, par la grâce de Dieu, Daniel a pu survivre et sortir plus que vainqueur de cette fosse au lion. Et ceux qui ont accusé Daniel ont été jetés alors qu'ils n'étaient pas encore arrivés au fond de la fosse. L'Écriture dit qu'ils ont été dévorés par les lions. Merci Seigneur, parce que même si le lion rugissant rugit aujourd'hui par la grâce de Dieu, si nous nous blottissons dans le Seigneur, si nous nous cachons en Jésus, eh bien les lions ne peuvent pas nous atteindre. Amen. Le diable voudrait nous dévorer, Satan voudrait nous faire du mal, mais la parole de Dieu dit que le Seigneur veille avec amour sur ses enfants. Amen. Alors, Daniel a connu l'épreuve, ses amis ont connu l'épreuve. Je ne peux pas entrer dans ce chapitre sans parler quelques instants de Daniel et de ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, qui eux aussi furent éprouvés comme Daniel, mais pas par la fosse au lion. L'Écriture dit qu'ils furent éprouvés par la fournaise. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, tellement chauffé que l'Écriture dit que les hommes qui étaient vigoureux, qui ont jeté ces hommes dans la fournaise ardente, eux sont morts, mais ces hommes n'ont pas eu la moindre incidence, le moindre problème. Ils sont sortis de là avec des vêtements et même leurs cheveux. Bon, moi, j'aurais peut-être pas pu là, mais même leurs cheveux ne sentaient pas l'odeur du feu. Amen. Vous savez, quand le Seigneur veille sur nous, il veille bien sur nous. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, le Seigneur veille bien sur toi. Dis-lui, il veille avec amour sur toi. Et Dieu va parler à Daniel d'une manière toute particulière. Et ces versets que nous avons lus font référence à plusieurs royaumes. En réalité, il y a trois royaumes anciens de l'Antiquité, et puis il y a le royaume où ces 10 cornes, ces 10 blocs de la fin des temps qui seront finalement un gouvernement mondial. Et ici, dans ce chapitre 7, on n'a pas le temps de l'étudier en détail, mais on voit qu'il y a quasiment les 2000 ans de vie d'église pour l'instant qui sont entre parenthèses. Parce que ici, c'est l'histoire d'Israël qui est traitée. Mais ce que je retiendrai pour nous ce matin, c'est que Daniel fut un homme avec une vision claire. Avec une vision claire des choses de l'esprit. Il fut, on l'a lu, troublé. Il a, dans ce chapitre, il est dit qu'après, dans sa tête, il fut profondément troublé par toutes ces visions impressionnantes. Dieu, dans un songe, va lui révéler, mettre en vision tous ces éléments-là, toutes ces choses-là. Et puis, à la fin, il va pratiquement en avoir mal à la tête. Mais Dieu voulait l'avertir et par là même nous avertir, parce que nous avons un Dieu qui fait l'histoire. Vous savez, l'histoire, elle n'est pas faite par les hommes. Tout est écrit. Notre vie est écrite, du début jusqu'à la fin. Tous nos jours sont inscrits dans un livre. Le script est déjà écrit. C'est pour ça que quand on prie, on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Maintenant, on peut, cette volonté, ne pas la chercher à la connaître et encore moins à la vivre, mais Dieu a une volonté pour vous et moi, précise. La volonté de Dieu, par exemple, c'est qu'on lui obéisse. Amen. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est qu'on continue à se sanctifier, que finalement, régulièrement, nous cherchions à nous rapprocher du Seigneur, car c'est le sens propre, littéral, de la sanctification. Nous sommes des êtres mis à part. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On a un autre esprit. Et Daniel, en passant, était repéré pour être un homme qui avait un autre esprit que l'esprit de Babylone. Et Daniel, donc, était un homme avec une perspicacité, une ouverture d'esprit profonde. Il avait une acuité, un éclairage intérieur nickel. Vous savez, un peu comme ce prophète Élisée, quand le serviteur va venir vers lui parce que les armées syriennes étaient venues pour l'arrêter. L'Écriture dit qu'à un moment donné, eh bien, Élisée va prier, il va dire « Seigneur, ouvre-lui les yeux !» afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Vous savez, nous ne sommes pas toujours conscients qu'il existe un monde surnaturel, un monde spirituel, et pourtant c'est bien réel. Autant il y a les anges, ceux qui sont avec nous qui sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, parce que en réalité les démons, ils ne sont qu'un tiers, hein. La Bible dit que le tiers des anges a été emporté par Satan, par le diable lors de sa chute. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et merci Seigneur, parce que même si les anges, qui sont des esprits à notre service, puisque l'Écriture dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut, en réalité, même si les anges font un travail, on ne le voit pas tout le temps, et merci Seigneur, moi j'imagine que certains d'entre nous, parfois, quand on prend la route, on mobilise des anges. Et vous savez, des anges qui peut-être descendent quand on dépasse le code de la route, hein, ou la limite de vitesse. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Et on doit toujours en être conscient pour pouvoir vivre une vie reposante, pour pouvoir vivre dans la paix. Et le problème parfois, c'est que nos yeux sont obscurcis. Nous n'avons pas suffisamment de révélations, suffisamment de lumières intérieures pour réaliser que Dieu, le Seigneur des Seigneurs, est avec nous. Cet homme de Dieu dira à plusieurs reprises « je regardais ». Et il dira même à un moment donné, il priera quelqu'un qui était là à côté, il lui demandera de lui révéler, au verset 15 et 16, de lui révéler la vérité. On a besoin de voir, on a besoin de révélation. Alors je dirais ceci, le chrétien, c'est quelqu'un qui voit. Qui voit pas seulement les problèmes, qui ne voit pas seulement les difficultés. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit intérieurement les choses de Dieu. Et permettez-moi de nous dire qu'il est important que nous ayons une vision correcte des choses de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais naturellement, nous avons tendance à voir, peut-être, oui, mais à voir les choses qui ne vont pas plus que celles qui vont. C'est vrai quand on regarde notre prochain, par exemple, et on doit apprendre et on doit dire au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi à voir en l'autre les bonnes choses. » Parce que naturellement, nous sommes plus portés à voir les choses négatives comme à voir les choses qu'à voir les choses positives. Je suis tout seul ou... Vous savez, cet homme qui a été guéri par Jésus, c'est notre expérience, dira à un moment donné, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Lorsque on a rencontré Jésus, lorsque l'on rencontre Jésus, Il y a des choses qui tombent de nos yeux. L'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, était Saul de Tarse et il était aveuglé. Il était aveuglé par l'orgueil de la religion. Parce que la religion nous rend orgueilleux et nous aveugle. Parce qu'on se pense supérieur aux autres. Et vous savez ce que la religion fait ? C'est qu'elle nous rend très forts pour condamner les autres. Et elle nous empêche de voir les défauts qui ne vont pas chez nous. On est un petit peu comme ces religieux qui ont accusé la femme adultère. Ils étaient prêts à la lapider. Et puis Jésus les a invités à un petit voyage intérieur pour qu'ils réalisent qu'eux aussi avaient besoin d'être changés. Amen. On a tous besoin d'être changés. À la conversion, à sa conversion, Paul a vu les écailles de ses yeux tomber lorsque Ananias a prié pour lui. Et il est entré à partir de ce moment-là dans le monde surnaturel. Il est entré dans une vie de l'esprit abondante et glorieuse. Je dirais que si nous voulons être des hommes et des femmes qui voient clair, il est important également de conserver jusqu'à la fin une vision claire. Il y a des choses qui aveuglent, comme la religion, comme le péché, comme la corruption. Cette vision, il faut la conserver. Jésus disait dans Matthieu 6, 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres ? » Comment va notre œil intérieur ? L'œil intérieur, c'est littéralement la conscience. Jésus disait à cette église, « Je te conseille, Apocalypse 3, 18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Et ce collier, ce matin pour nous, c'est le collier de la parole de Dieu et de son esprit. Son Saint-Esprit, la révélation de sa parole. Le Saint-Esprit veut nous révéler encore sa parole. Il veut nous révéler encore ses promesses. Il veut nous révéler peut-être encore ses plans pour notre vie. Amen. Dieu a des plans pour nous. Et lorsque nous prions, il y a des choses qui sont cachées que le Seigneur désire nous révéler. Le Seigneur ne désire pas que nous tâtonnions dans l'obscurité. Mais il désire que nous marchions dans la lumière. Jésus dira, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui a de la lumière. C'est quelqu'un qui est éclairé à l'intérieur. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais jeune dans la foi, il y a quelques années de cela, pas longtemps, bien sûr. Quand j'étais jeune dans la foi, je me rappelle un jour, le Seigneur me parlait et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, « Yvan, ta lumière est immense en toi. » Parce que des fois, on chante, vous savez, « Ma petite lumière, je la ferai briller. » Mais la lumière que nous avons en nous, ce n'est pas une petite lumière. La lumière que nous avons en nous, c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière qui est capable d'éclairer le monde, un monde qui gît dans les ténèbres. Et la lumière, c'est toi et c'est moi, amen. Vous avez déjà essayé de conduire vos voitures quand il fait nuit sans les phares ? C'est compliqué, hein ? Quand on met les pleins phares, alors là on voit mieux et on roule beaucoup mieux. La révélation de ta parole est claire. Et le Saint-Esprit ce matin désire nous donner encore et encore de la lumière. Amen.
Et vous allez dire, mais comment puis-je marcher dans la lumière, Jésus, aujourd'hui, je ne le vois pas. La parole de Dieu est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu me permet de voir auprès. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est, elle est prophétique, elle nous permet aussi de voir au loin. Dieu est le Dieu qui nous avertit aussi. Vous savez que Dieu n'est surpris par personne. Et une des caractéristiques de la parole prophétique, c'est qu'elle nous avertit pour nous préparer. Vous vous rappelez de cet homme Agabus, ce prophète, qui du temps des Actes des Apôtres est venu vers les apôtres, et l'Écriture dit qu'il les a avertis qu'il y allait avoir une grande famine qui allait survenir. Et à partir de là, ils se sont organisés grâce à la parole prophétique. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les paroles que le Seigneur nous donne, mais il faut les repasser dans notre cœur. Alléluia! Alors je dirais que cet homme de Dieu, Daniel, fut un voyant. C'est pas terrible de dire ça aujourd'hui, mais dans l'Ancien Testament, le prophète était aussi appelé le voyant. Celui qui voyait clair, celui qui avait la révélation des choses de Dieu. Et aujourd'hui, ceux qui voient clair, c'est ceux qui sont au contact de la parole de Dieu et qui sont remplis du Saint-Esprit. Je note, si vous voulez bien, un deuxième élément dans ce chapitre. Au verset 10, il est dit ceci, alors qu'il a la révélation de la fin des temps, il est question d'un fleuve de feu, qui coulait et sortait de devant lui. Il est question de l'ancien des jours, de notre Seigneur. Vous savez, Dieu est aussi un Dieu de feu. On a besoin du feu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais parfois on est tiède, on est limite même froid. Alors que Dieu veut faire de nous des flammes de feu. Des hommes et des femmes embrasés de sa puissance. Remplis de son autorité. Dans le ciel, il y a du feu. 1000 milliers le servaient. 1000 milliers le servaient. Au ciel, des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Dis à ton voisin, au ciel, on ne va pas s'ennuyer. Vas-y, dis-lui, au ciel, on ne va pas s'ennuyer. Peut-être que là, des fois, tu ne sais pas quoi faire. Au ciel, il y aura de quoi faire. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Au ciel, on ne s'ennuiera pas et au ciel, on ne sera pas tout seul. Amen. Dis à ton voisin aussi, tu ne seras pas tout seul au ciel. 10 000 millions en sa présence. Ça fait du monde, ça, hein, pour ceux qui aiment être solitaires. Et en plus, il y en aura de toutes les couleurs. Il n'y aura plus les séparations qu'il y a aujourd'hui. On sera tous réunis là-haut. Amen. Et tout ce qui nous sépare aujourd'hui ne sera plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent dans la présence de Dieu et ils servent le Seigneur. Et il est dit également au verset 14 également, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Ils servent Dieu en sa présence, et il est dit que là encore, ils le serviront. Et au verset 28, il est dit aussi, « Ici finirent les paroles, moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. » Daniel, au verset 27, pardon, « Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Vous avez remarqué que tout à l'heure, alors je sais que parfois il faut capter les bons moments pour faire ce genre de choses. Je sais qu'au mois de septembre, je suis assez content de voir la foule ce matin. Je prie, je jeûne pour que les chrétiens partent en vacances, mais pas trop, n'est-ce pas, pour qu'on puisse continuer à servir le Seigneur. Mais je sais que c'est peut-être pas une bonne période pour demander de faire du recrutement pour la rentrée, pour la garderie, par exemple. Vous savez, la garderie, cette machine de guerre qu'il faut entretenir, ce genre de service où il faut pratiquement être payé pour le faire. Pourtant, frères et sœurs, n'est-ce pas là notre appel que de servir le Seigneur? Or, bien sûr, c'est glorieux que de se tenir dans la présence de Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas servir le Seigneur efficacement si on ne prend pas du temps dans la présence de Dieu. Mais servir le Seigneur, ce n'est pas un honneur que nous faisons au Seigneur. Servir le Seigneur, c'est un honneur que le Seigneur nous fait. Et vous savez, parfois, quand je nous regarde, parce que je ne suis pas sur le mode accusateur, je suis un humain comme vous, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois il y a des tâches que nous faisons, que nous n'avons pas nécessairement envie de faire, et qu'il faut véritablement être rempli du Saint-Esprit pour les faire avec joie. Parfois, servir le Seigneur avec joie, ça nécessite un véritable miracle. Seigneur, suscite des serviteurs au milieu de nous, miraculeux, surnaturels, qui font les choses non pas parce qu'il faut les faire, mais qu'ils les font parce qu'ils aiment celui pour qui ils les font. Nous servons un Seigneur merveilleux qui nous a rachetés de la fange du péché. Et aujourd'hui, il nous fait la grâce d'appartenir à son Église, à son épouse. Et c'est un privilège. C'est un privilège et un honneur de servir le Seigneur à fond. Et je suis content de voir des jeunes dans l'Église, hein. Parce qu'il viendra peut-être un temps où nous n'aurons plus l'occasion de servir le Seigneur avec la même énergie. Tant que nous sommes encore mobiles, servons le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas une option. Servir le Seigneur, c'est une injonction. Servez l'Éternel, dit Paul. Servez Christ le Seigneur. Servez-le. Alors vous allez dire, mais pasteur, comment est-ce que je dois servir le Seigneur? Mais là, c'est facile. Il suffit de t'incorporer avec ton cœur à la maison de Dieu et puis de suivre le Seigneur et les intérêts du Seigneur de près et tu verras naturellement les choses qu'il faut faire. Moi, je rends grâce à Dieu pour cette année, pour tous ceux et toutes celles qui ont mis de la sueur et qui le font encore, même cet été, qui ont mis de la sueur, qui ont mis de l'argent, qui ont mis de l'énergie pour que la maison du Seigneur n'ait pas à souffrir de frustration, qu'il n'y ait pas de déficience. Lorsqu'on a besoin de quelqu'un, qu'on ne soit pas là comme des mendiants à dire tout pendant 15 dimanches, on a besoin d'eux. Vous savez, il y a parfois des déséquilibres dans l'œuvre de Dieu. Il y en a 10 qui font pratiquement tout et 500 qui consomment ce que font les 10. Cherchez l'erreur. Je pense que Dieu, ce matin, t'appelle à quelque chose. Dieu a un plan pour toi. Mais n'attendons pas le ciel pour servir l'Éternel. Tandis que nous sommes sur la terre, soyons en répétition, mais pour de bon. Travaillons sérieusement à l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors attention, hein. Il y a servir et servir. Je ne parle pas d'esclavage. Plutôt que de faire les choses avec un mauvais état d'esprit, mieux vaut ne rien faire et demander à Dieu de nous libérer de l'esprit de servitude. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude, Romain, pour être encore dans la crainte. Dieu veut que nous le servions en toute liberté. Vous savez, j'ai aucune envie d'avoir des chrétiens qui viennent à l'église parce qu'ils sont obligés de venir, ou à cause de la peur du gendarme, parce qu'il va avoir un coup de téléphone du pasteur. Alors, vous allez l'attendre, je pense, mais ce n'est pas possible avec le nombre que nous sommes. Mais voyez, le problème du fils aîné, c'est qu'à un moment donné, il va dire à son papa, « Il y a tant d'années que je te sers. » Et tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse. Vous savez, quand il est dit que de ces hommes dont le caractère est difficile, j'ai regardé un petit peu la définition, le caractère difficile des serviteurs qui doivent servir ceux qui sont d'un caractère difficile et qui doivent quand même le faire. Je ne sais pas si vous côtoyez quelqu'un qui a un caractère difficile. Vous savez, parfois on cache notre caractère difficile en disant juste « j'ai du caractère ». Tu as un caractère difficile. Si tu dis ça, c'est que tu as besoin de le dire. Ça veut dire bourru et maussade. Ouh, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas devenir comme ça. Caractère difficile égale bourru et maussade. Vous voulez que je vous imite le truc ? Jésus est vivant. Mais j'ai le sentiment que Satan, des fois, nous fait oublier que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Alors servons le Seigneur avec le renouveau du Saint-Esprit. Moi, quand je regarde l'apôtre Paul, la manière dont il servait le Seigneur, je n'ai pas le sentiment qu'il était en mode tourisme. Jamais. Vous avez remarqué que quand il écrit ses comptes rendus missionnaires, il ne va pas dire « Oh, j'étais à Athènes, c'était formidable, j'ai fait quelques visites. » Il ne semble pas que l'apôtre Paul était un fan de tourisme et pourtant un serviteur infatigable. Vous savez, des fois, on vient dans la maison de Dieu, c'était le cri des prophètes. « Oh, vous dites, quelle fatigue! Je suis fatigué, pasteur. J'en peux plus. » Pourtant, quand on va dans la présence du Seigneur, quand on va dans la présence de celui qui est une flamme de feu, est-ce que le Saint-Esprit, quand il nous remplit, il n'est pas capable d'enlever notre fatigue, d'enlever nos déprimes, d'enlever nos oppressions, d'enlever nos langueurs, d'enlever nos frustrations, d'enlever nos tristesses. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas capable de faire cela ce matin ? Peut-être que tu es arrivé dans ce lieu et tu es au bout du bout et tu entends le pasteur te dire « Mais serve, vous savez, il y a des principes dans la parole de Dieu. C'est pendant qu'on marche qu'on reprend des forces. On boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi on relève la tête. » J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'échec. Même si tu es tombé, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Avance, avance encore. Mais pasteur, je ne suis pas digne de servir le Seigneur. Mais personne n'est digne de servir Jésus. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si on est là ce matin et si on peut le louer, l'adorer, le servir, s'il nous fait l'honneur de le servir, c'est parce que il a payé de son sang afin que nous soyons des sacrificateurs pour le Seigneur, que nous le servions sur cette terre et nous voulons le servir maintenant et jusque dans l'éternité. Tu as besoin de quoi ? Peut-être simplement de dire « Seigneur, viens me renouveler, viens me fortifier, viens m'encourager, viens me délivrer de toutes les choses qui pourraient peut-être ce matin être de nature à m'éloigner de ta présence et à m'éloigner de toi, d'un caractère doux et paisible, d'un caractère d'un homme de Dieu qui doit servir Jésus dans sa génération. » Le Seigneur n'a jamais dit que le servir, ça allait être facile toujours. Vous savez, le mot témoin, c'est littéralement le mot martyr, marturios. C'est pas bon quand c'est trop facile. Parce que quand c'est trop facile, on a tendance à s'alourdir. Vous savez, dimanche dernier, je fais une petite rétrospective. Je parlais des brebis grasses, pardonnez l'expression, c'est pas moi qui en parle, c'est Ézéchiel. Et j'ai parlé de régime alimentaire, mais nous pourrions parler aussi d'un peu d'exercice. Certains d'entre nous en manquent d'exercice spirituel. Exerce-toi à la piété. Qu'est-ce que ça veut dire en 2019, en 2020? Ça veut dire jeûne. Ça veut dire « prie », ça veut dire « plonge-toi dans les Écritures », »,« exerce-toi », »,« applique-toi à la lecture », »,« lis la parole de Dieu », non pas pour la traverser d'un bout à l'autre sans en rien comprendre, mais pour que celle-ci te traverse d'un bout à l'autre. Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde, exerce-toi, exerçons-nous. Ne devenons pas, s'il vous plaît, ne devenons pas des chrétiens lourds et pesants comme Élie, le sacrificateur. Il n'en pouvait plus, il était au bout du bout, c'était devenu un lourdeau, pardonnez-moi l'expression, il ne voyait plus rien, sa vision, la Bible dit qu'en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Sa vision s'était obscurcie, il était devenu incapable de percevoir dans le monde surnaturel les injonctions de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand il ne trouve plus un cœur et même une église, il est capable de déplacer le chandelier. Et la Bible dit que Samuel, lui, Samuel, écoutait la voix de l'Éternel. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de disposition intérieure. Est-ce que j'ai soif ? Est-ce que j'ai le désir d'entendre Dieu me parler pour ma vie ? Allô ? Et vous savez ce qu'il fait, le berger ? Je fais une petite rétroactivité ou rétrospective d'Ézéchiel, parce que c'est lié, c'est une lumière sur les prophètes, des visionnaires. Il va laisser les brebis dans le désert, c'est écrit. On ne l'a pas lu la semaine dernière ou on l'a lu rapidement. Parfois, le Seigneur, comme dans Luc 15, il va te laisser pour aller chercher la brebis perdue. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ce détail dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit détail, mais il n'y a pas de détail avec Dieu. Il laisse les 99 où ça ? Dans le désert. Pour aller à la recherche de celle qui est perdue en enfer. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un désert. On est comme le peuple juif qui est sorti d'Égypte et qui traverse le désert pour entrer dans le pays promis. Et Dieu te permet et me permet, et parfois on regimbe dans les déserts. On ne veut pas y aller dans les déserts. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il fait chaud. Il n'y a pas la climatisation. La Bible dit que Jésus était dans le désert avec des bêtes sauvages. Mais en même temps, ça c'est la grâce de Dieu. Dans les moments difficiles, ça s'appelle les compensations divines. Et c'est partout dans la Bible. Dieu va permettre que Jésus soit servi par les anges, c'est écrit. Et quand tu traverses un désert, quand je traverse un désert, les anges me servent. Ils t'aident. Et parfois, tu n'as pas toujours conscience, mais on a entendu des témoignages comme cela, de frères et sœurs qui étaient dans des moments particulièrement terribles. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu dans leur désert, dans leur difficulté. Et cette personne semblait venir, on ne sait de pas où. Pardonnez-moi le français à l'envers. C'était un ange. Mais Dieu permet dans nos vies des saisons de désert. Il laisse les brebis que nous sommes dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'il veut parler à notre vie. Parce que Dieu veut dîner avec nous. Alors Dieu permet des choses et David, on en parle souvent, David a été dans des déserts, déserts de Sif. Il a été de refuge en refuge et on voit chez David des choses. On voit que Dieu va lui enlever tous ses repères, tous ses refuges, parfois même ses amis. Parce qu'à un moment donné, Dieu est obligé de tout nous enlever parce qu'il veut nous parler en live, en direct. Alors peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais Seigneur, c'est tant difficile, pourquoi je ne vois rien, pourquoi je suis dans le désert. Dieu est en train de t'amener dans une cure de désintoxication. Tu as peut-être, sans t'en apercevoir, tu t'es peut-être alourdi. Vous savez, il y a des textes qui ne sont pas élégants dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bourru et non psychologue, parce que je crois que Dieu est psychologue. Les humains n'ont pas inventé la psychologie. Jésus est très psychologue. Jésus sait prendre les gens. Il casse pas les gens. C'est pas vrai. C'est pas l'identité de notre Seigneur Jésus. Mais pourtant, il y a parfois des textes dans l'Écriture qui doivent nous faire réfléchir quand les prophètes disent par exemple « Tu es devenu gras ». C'est écrit ? Lourd. Vous savez, Saül qui est tombé au combat et Jonathan, il est dit qu'ils étaient légers comme des aigles. Il y avait un dynamisme, il y avait quelque chose, ils étaient en opération spirituellement. Et parfois, ce qui m'inquiète, c'est de voir combien on est zélé pour les choses de ce monde. On fait un barbecue, yes, on est 200. On fait une réunion de prière, on est 10. Et après, on vient me voir, on me dit, « Pasteur, c'est pas le réveil à ciel ouvert. » Ben, va ailleurs, tu verras. Et c'est effrayant de voir l'enthousiasme qu'on peut avoir pour les choses d'en bas, alors que ma Bible et la vôtre dit, « Aspirons aux choses d'en haut. » Une vision des choses d'en haut. Ah, je vais lire ma Bible, pasteur. Je m'endors devant. J'ai rien compris. Je lis Daniel 7, je pige rien. Le pasteur me prêche pendant une heure, je pige toujours rien. Oh, réveille-nous, Seigneur. Alors Dieu dit, je vais la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et puis, elle ne m'appellera plus mon maître. Parce que vous savez, parfois, quand on n'est pas spirituel, on développe une relation avec Dieu de donnant-donnant. Il faut faire, il faut servir. Parce qu'on n'a pas confiance et on n'a pas compris que Dieu est là de façon inconditionnelle et que ce qu'il veut avec toi et moi, c'est une relation d'amour. Moi, c'est un célibataire qui vous parle, endurci, un vrai. Elle dit, non, au nom de Jésus. Mais le jour où je vais tomber amoureux, ma vie va changer. Mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je vais avoir 15 chrétiens qui vont me dire « Tu ne devrais pas parler de ça sur l'estrade. Hein. » C'est pas ma faute, j'ai glissé, chef. Un peu d'humanité, ça fait pas de mal dans ce monde de brutes. Mais Dieu est obligé d'en oser de nous conduire au désert pour parler à notre cœur. Et puis changer le rapport que nous entretenons avec lui. Et quand on lit Osée, c'est un prophète mineur, mais avec un message majeur. Il dit, là, je vais te dépouiller de toutes tes idoles. Parce que vous voyez des fois, jeunes gens, vos idoles, elles prennent beaucoup de place. Est-ce qu'on est capable encore de lire notre Bible avec le téléphone fermé? Est-ce qu'on est capable de prendre 5 minutes avec Jésus sans penser à rien et à personne d'autre? C'est pour ça que Jésus disait, quand tu pries, je ne veux pas de formules toutes faites, je ne veux pas de blablabla, de vaines redites. Il dit, tu entres dans ta chambre et là tu fermes la porte. Et ça prendra le temps que ça prendra. Même si c'est dans le désert qu'il faut aller. Mais tu dois me rencontrer. Je veux un rencard avec toi. Je veux un moment avec toi. Je te donne rendez-vous. La prière, ce n'est pas un truc qu'on fait. La prière, c'est un tête-à-tête avec le roi des rois. Quand on vient à l'église, on est sur un terrain saint. Le Seigneur est là. Et donc Dieu, pour nous dégraisser un peu et nous ramener à une acuité, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous conduit dans les déserts de la vie, de l'existence. Et ce n'est pas toujours le diable qui permet dans notre vie des difficultés. C'est parfois le Saint-Esprit qui nous y pousse. Il y a des déserts qui sont des portes d'entrée. D'ailleurs, le désert est toujours un temps de préparation. C'est pas, le désert n'est jamais la destination finale. Retiens ça ce matin. Peut-être que tu es dans un désert, mais dis-toi bien ceci, c'est que la volonté de l'Éternel pour toi, c'est pas de te laisser comme les 99 pour toujours dans le désert parce qu'il est un bon berger. La volonté du Seigneur, c'est que ton désert soit pas une destination, mais c'est que ton désert soit un moment pour une promotion. Parce que c'est dans le désert que tout se joue. C'est dans le désert que je vais plus haut, que je m'enferme et que je meurs. Israël dans le désert est mort, excepté Caleb et Josué, alléluia ! Gigi et moi, Caleb et Josué. Jésus est sorti du désert vainqueur. Ce matin, on va tous sortir du désert vainqueur. Il faut juste prendre bien soin de comprendre que ce que le diable nous dit dans ces moments-là, ce n'est pas la vérité. Parce que la force du diable, c'est quoi ? C'est de nous faire croire que ces mensonges sont la vérité. Quand il a réussi à amener tes pensées, non pas à l'obéissance de Christ, ça c'est le travail des serviteurs de Dieu, mais quand il a réussi à te faire croire que ce qu'il dit, c'est la vérité, tu es cuit. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu vas vivre. Si tu penses, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et s'il y a bien un lieu stratégique de guerre spirituelle, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. C'est pour ça qu'il faut mettre le casque du salut. Et Jésus a rétorqué à Satan et aux mensonges de Satan, qui étaient déguisés et enrobés même de l'Écriture. Jésus
a dit, il est écrit. Et Jésus est sorti vainqueur du désert. Et Jésus a fait la différence dans sa génération. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun et chacune d'entre nous, que le nom du Seigneur soit béni. On pourrait se mettre tous et toutes debout dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Shakarabasante keriondorosaya. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie pour tes enfants. Je te prie, Seigneur, alors que tu veux nous donner cette lumière prophétique, cette lumière de vie, Seigneur, alors que bien souvent nous sommes effectivement apesantis par toutes sortes de choses, tu veux nous, quelque part, nous dégraisser. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes, des croyants matures, qui ont passé les tests, qui comprennent que parfois même toutes les difficultés que nous vivons ne viennent pas forcément du diable, mais elles sont permises par toi. Parce que parfois tu veux nous réorienter, tu veux nous parler, tu veux nous corriger, tu veux nous montrer certaines choses. Seigneur, je te prie que ce matin tu nous donnes à tous et à toutes une vision claire, renouvelée des choses de Dieu. Que nous ne nous laissions pas entravés par les choses d'en bas. Que nous ne devenions pas esclaves des idoles de ce monde, de l'argent, du sexe, des loisirs effrénés, mais que nous soyons davantage concernés, comme toi tu l'étais à 12 ans. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Tu étais déjà conscient de ta mission. Seigneur, nous voulons nous aussi être conscients de notre mission. Je te prie de donner des révélations ce matin. Peut-être tu es dans le désert de la vie. Tu es là avec les bêtes sauvages, la chaleur. Tu es dans une saison inconfortable. Tu es comme ces 99 dans le désert parce que le Seigneur te donne un rendez-vous. Mais en même temps, dans le désert avec Jésus, c'est ce que dit le prophète, tu es en sécurité. Mieux vaut être dans le désert avec Jésus que dans les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorre. Il y a des gens, ils ne souffrent de rien. Il semble que tout leur va. Mais je préfère être dans des périodes, dans des tests, dans des chemins peut-être plus difficiles. Le chemin est peut-être étroit, plus rocailleux, plus difficile, mais c'est le bon chemin. Le chemin de la sanctification, le chemin de la prière, le chemin de la maison de Dieu, le chemin des intérêts du royaume de Dieu. C'est plus difficile, mais c'est le chemin de Dieu. Et Seigneur, ce matin, je te prie peut-être pour quelqu'un qui se dirait « Mais c'est tellement dur, Seigneur, j'en ai marre du désert. » Sois patient dans le désert. Dieu forme en toi un caractère. Dieu forme en toi des habitudes spirituelles. Dieu forme en toi un guerrier, une guerrière, un homme, une femme de Dieu. Dieu t'étire, il te fait passer de l'enfant au fils de Dieu qui va être à l'affût, qui va comprendre les injonctions du Saint-Esprit, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. On n'a pas toujours besoin des conseils de Pierre, Paul et Jacques. On a surtout besoin de l'esprit du conseiller, un esprit de conseil. Quand tu seras au carrefour de ta vie, quand je suis au carrefour de ma vie, je dois apprendre à discerner les chemins tracés à l'intérieur. Et c'est parfois dans le désert que Dieu nous envoie. Alors des fois, il y a des mirages, on a l'impression que les choses vont bouger, puis elles ne bougent pas. Mais ce n'est pas grave, sois patient. Sois patiente. Dieu ne veut pas que nous soyons une église grosse. Dieu veut que nous soyons une église grande.
Dieu ne veut pas que nous soyons des brebis grasses, lourds et pesants comme Élie le sacrificateur, qui n'avait plus que le titre, mais qui n'avait plus l'onction prophétique. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Église ciel ouvert que le ciel sera nécessairement toujours ouvert, parce que pour que le ciel soit ouvert, il faut que mon cœur reste ouvert. Que celui qui a des oreilles entende. Où es-tu, te dit l'Esprit ce matin? Arrête de te cacher. Si ta relation avec moi, te dit le Seigneur, n'est plus ce qu'elle était, tu dois la retrouver, parce que Dieu ne veut pas faire de nous une église grosse, il veut faire de nous une église grande. Vous allez dire, mais pasteur, on est trop grand, ce qu'on n'est pas, tout ce qui est de Dieu est grand. Écoutez ce que je vous dis, tout ce qui est de Dieu est grand. Dieu n'est pas l'auteur de la réduction, de la limitation, de l'oppression. Dieu est le Dieu de la liberté, mais on n'a qu'à regarder la mer, les immensités. Quand on sera au ciel, il y aura des myriades de myriades. Libérons-nous intérieurement. Saint-Esprit, parle maintenant. Et quand je te dis de servir le Seigneur, je ne te dis pas sers le Seigneur avec un fouet. Je nous dis, laissons-nous renouveler par le Saint-Esprit, parce qu'il y a de la joie de le servir. Et peut-être que ce matin on peut dire, Seigneur, pardon pour toutes les fois où je rechigne à la tâche, où je ne réalise pas que de te servir c'est un bonheur. C'est une grâce. Tu m'as choisi alors que je suis le moindre. Seigneur, je te prie maintenant pour tes enfants. Je te demande de les bénir, mon Dieu. Je te demande de les encourager. Je te demande de les fortifier. Ne reste pas insensible. Vous savez, les brebis grasses sont insensibles. Elles sont sclérosées, elles sont plus dans le mouvement. Dis, Seigneur, rends-moi sensible à ton cœur. Je veux être comme Jean ce matin sur la poitrine de Jésus. Je veux capter les moindres vibrations de ta pensée. Je ne veux pas être décalé. C'est ça être prophète. Paul disait, nous avons la pensée de Christ. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, cet homme-là, il parlait de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu Dieu. Alléluia. Remets-toi, je vois ce matin des brebis, j'en vois plusieurs qui sont sur le côté, qui sont comme Paul, qui ont été lapidés, qui ont été blessés. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te rappelle qu'il est la résurrection, qu'il est capable de te remettre sur pied, que même si hier soir, comme Ézéchiel, il a perdu sa femme, le lendemain, il prêchait la parole. Dieu veut t'amener à vivre une vie pas sentimentale, mais une vie spirituelle, une vie basée, appuyée sur autre chose. Seigneur, je te prie pour ces brebis sur le côté, je te prie de les renouveler, de les remettre sur pied. Je te prie de guérir des brebis blessées. Je te prie de ramener des brebis égarées. Si quelqu'un ramène un frère qui était égaré loin de la vérité, si ce matin je pouvais te ramener à un peu plus de désir pour Dieu, à un peu plus d'ouverture pour les choses d'en haut. Cet après-midi, on va prêcher la parole de Dieu dans ce lieu pour sauver des vies. Que vas-tu faire? Cette église est engagée dans la prière. Cette église est engagée dans l'évangélisation. On jette le filet au nom de Jésus, le filet de l'évangile. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas laisser tes frères et sœurs tirer le filet tout seul? Dieu a besoin de toi. Il te guérit ce matin. Il t'arrose pour que tu sois un instrument à ton tour. Seigneur, je te prie alors que j'ai prié, prêché. Je te prie maintenant que le Saint-Esprit passe dans les rangs, guérisse les cœurs. Renouvelle, transforme les vies. Restaure les foyers. Libère les captifs. Encourage, mon Dieu. Nous ne voulons pas être gros, nous voulons être sveltes. Nous voulons être renouvelés dans la foi. Alléluia. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Encourage-nous, Père, dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus. Alléluia, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction à ta place. Si tu as besoin d'être béni là où tu es, mets tes mains sur ta poitrine. Mets tes mains sur toi-même. Et prie le Seigneur, demande au Seigneur de te bénir, de te visiter par son esprit. Ce matin, il te visite, il t'encourage dans son nom puissant. Alléluia, Shokara.
Nous espérons que vous avez été encouragé par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site égliseciel-ouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes